Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International en cette fin d'après-midi pour vous parler des bleus généreux hier soir. 7 buts contre de faibles Ukrainiens qui avaient des excuses quand même. Une 100e sélection réussie pour Olivier Giroud, déjà en chasse du record de buts en bleu que détient Thierry Henry, et titularisation très réussie pour le très jeune Camavinga, buteur à 17 ans. Bref, une équipe de France emballante, même si c'était un match amical. Le président du Barça en sursis, Josep Bartomeu, le dirigeant qui n'aura pas laissé partir Lionel Messi, devrait quand même bientôt quitter le club, visé par une motion de censure des socios opposés. La chaîne Téléfoot, déjà en péril. Le groupe Mediapro, propriétaire du canal de diffusion de la Ligue 1, n'a pas honoré sa dernière traite de 172 millions d'euros. Le bras de fer avec la Ligue française de football a commencé, signe sans doute d'une crise plus grave qui couve. Peut-être, on ne sait pas. Vous nous en direz plus, Étienne Moati.
On va essayer.
Bonjour, c'est vous qui faites la une du journal L'Équipe aujourd'hui avec cette nouvelle, cette chaîne qui est certes diffusée en France, mais on parlera de l'économie du football aussi, de manière sous-jacente. Il y a aussi Dominique Sévrac.
Bonjour, Dominique. Fasse la une là, quand même, après 40 ans de carrière, c'était temps quand même. Hein. Ça fait plaisir.
N'est-ce pas ?
Ça arrivera, Dominique. Ton tour viendra, mais il faut encore attendre un petit peu.
Oh, mais il fait souvent la une, Dominique, quand c'est pas avec le PSG, n'est-ce pas ? C'est avec les Bleus. On va pas parler de sujets qui fâchent aujourd'hui. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie.
Merci
bonjour à tous
d'être là aujourd'hui. Laurent Salerno, El Maestro, notre maestro, est à la réalisation. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Radio Foot, c'est donc parti. Antonín Panenka, le légendaire footballeur tchèque, hospitalisé dans un état grave à Prague depuis hier, victime du Covid-19. Il est donc en service de réanimation. Il est âgé de 71 ans. Alors on lui souhaite d'avoir la force et la lucidité de marquer une belle Panenka à ce satané coronavirus. Courage Antonin. Président d'honneur en tout cas du club des Bohémiens de Prague, Antonín Panenka a donc laissé son nom dans le football depuis 1976 lorsqu'il inscrivit un pénalty. Vous l'avez vu j'imagine, tous ici vous l'avez tous vu. Peut-être pas en direct, 76,
moi, je m'en rappelle pas, j'étais un peu petit, mais on me l'a souvent raconté.
On était petit, mais quand même. Voilà, il avait inscrit ce pénalty face au grand Sepp Maier, qui allait en plus décider de la victoire de la Tchécoslovaquie, comme on disait à l'époque, contre eux. On disait aussi à l'époque la RFA, qui était l'Allemagne de l'Ouest. Un geste technique. Alors, on cherchait tout à l'heure un qualificatif pour désigner ce geste à la fois simple et compliqué. Un ballon mou, un ballon
piqué,
flottant.
Une sorte de feuille
morte. Un qualificatif, comment vous diriez ? Un geste technique, quoi, Dominique Sévrac ?
Audacieux.
Ah, joli.
Oui, du panache.
Feinteux. Feinteux en rupture.
Feinteux, ça existe. Hein.
Oui,
attendez, on va prendre le Larousse.
Qui a été perverti, parce que c'est devenu un peu une arme pour chambrer parfois les gardiens. Aujourd'hui, un gardien le vit un peu mal quand il prend une Panenka.
Pas d'accord avec ça. Je fais l'analyse exactement inverse.
Ah, c'est comme ça que les gardiens le ressentent.
Je suis pas vraiment d'accord, parce que autant après cette Panenka, et finalement ce geste a très largement disparu. Il a été très très peu pratiqué pendant plusieurs dizaines d'années, c'était extrêmement rare. Et si jamais donc un attaquant essayait ce geste-là, c'était considéré comme une offense, comme un chambrage, et c'était pas respectueux pour le gardien. Aujourd'hui, quasiment la totalité des joueurs tentent ce geste-là, le réussissent beaucoup,
et
c'est
beaucoup,
totalement été banalisé.
Ouais.
J'ai plus le sentiment aujourd'hui justement que les gardiens le vivent mal quand ça leur arrive.
Et puis c'est une prise de risque, parce que on considère sans doute
c'est le risque de ce beau geste.
Le
parce
pénalty,
que si on le rate,
que le pénalty est un geste facile pour un footballeur. Bon,
ça ne l'est jamais.
C'est facile, c'est plus facile que d'autres gestes, mais c'est quand même un geste technique. Mm-hmm. Donc le réaliser avec une Panenka, c'est une prise de risque. Et si on le rate, on est totalement ridicule.
C'est
et rappelons Michael Landreau, en finale C'était contre Sochaux
Teddy
en
Richard.
Finale d'une Coupe c'est de la Ligue contre Teddy Richert. Il avait tenté, et c'est Michael Landreau qui était un as de l'arrêt des pénaltys en tant que gardien de but, lui-même devait transformer son tir au but et il avait tenté une panenka qu'il avait lamentablement ratée parce qu'il n'avait pas eu la petite dose de malice et le sens de la feinte d'un joueur de champ. Et Richard avait eu qu'à se saisir le ballon même sans bouger. Ouais. Et donc on avait appelé ça la Landrenka et c'était passé pour quelque chose de ridicule. Donc c'est à double tranchant la panenka. Donc je trouve que alors Dominique considère qu'il y a une part de chambrage. Je trouve aussi qu'il y a une part de panache, un côté chevaleresque, parce que c'est mine de rien une prise de risque de tenter une panenka.
Façon, moi j'adore, hein, mais je parlais du point de vue des gardiens.
Oui, ça
peut
être perçu comme ça.
Et en plus, Patrick, tu sais qu'on peut la rater et marquer le but, parce que Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006,
grâce à la barre.
Il la rate finalement. Ce qui est étonnant compte tenu.
Non, il a visé là-bas.
Du niveau technique de Zidane. Il y a quand même but.
Il peut pas rater un chèque, Zidane.
Moi, la pire panenka que j'ai vue de ma vie, c'est Eric Cantona avec Bordeaux. Un match de Coupe de France, marécageux, boueux, où le ballon n'a même pas arrivé jusqu'au gardien. Et le ballon a été freiné avant.
Alourdi.
C'est comme Eric Cantona qui lui aussi était quand même un technicien hors pair. Comme quoi, hein, ça veut rien dire. De toute façon, les plus grands joueurs, pas forcément Panenka, ont raté des tirs au but.
C'est un peu le signe d'une époque aujourd'hui, le fait que la Panenka soit totalement donc rentrée dans les mœurs et utilisée par quasiment tous les joueurs. Parce que le football a aussi aujourd'hui un côté individuel qu'il avait peut-être moins à l'époque. C'est-à-dire on compte ses buts, les passes décisives, toutes les statistiques, le nombre de kilomètres parcourus, etc. J'ai l'impression que ça rentre dans cette idée-là.
Il y a
un sport individuel à l'intérieur d'un sport collectif.
Griezmann a fait une panenka à Neuer en demi-finale de l'Euro 2016 parce que c'était aussi Neuer et je pense qu'il voulait une manière de rentrer aussi dans l'histoire en se disant ça peut envoyer la France en finale, c'est face à Neuer. Qui est un peu le meilleur gardien du monde, donc voilà, il y a ça joue.
Et celle de Zidane, hein, on s'en souvient évidemment, en 2006, vous en
ça,
parliez.
C'est grand bouffon.
Ouais, on peut penser à celle de Sanchez aussi, en Copa América avec le Chili. C'est la Panenka qui signe la victoire contre l'Argentine en séance de tir au but. Voilà pour ce petit dégagement et pour penser chaleureusement à Antonin Panenka. Et on a cherché Madjer et Arconada, qui ont aussi donné des noms et qui sont sexagénaires. Apparemment, ils vont bien et ils restent à l'écart du coronavirus.
On va quand même
on va bien sûr regarder le 41e but en équipe de France d'Olivier Giroud pour sa 100e sélection. Il égale Michel Platini et quel beau but pour égaler le grand Michel Platini. Cette petite frappe magnifique enroulée dans la lucarne. Sans sélection, 41 buts, monsieur Olivier Giroud. Allez, Oussemawa est derrière. Ça fait 42 pour Olivier Giroud. Et cette fois-ci, il est seul second derrière Thierry Henry.
Le résumé de nos confrères de TF1 qui retransmettaient le match. Ce n'était donc qu'un match amical et face à un adversaire affaibli mais décimé en fait par ces cadres qui ont le coronavirus ou en tout cas qui sont porteurs du virus. Mais hier soir, les Bleus se sont bien amusés et on peut dire qu'ils nous ont bien distraits. Ces plutôt jeunes joueurs de l'équipe de France en inscrivant donc 7 buts, la plupart des jolis buts. Est-ce que vous aussi, vous avez aimé ce match, Dominique?
Ah bah oui,
parce que les matchs amicaux, des fois on se dit oh là là, il y a un match amical.
Bah surtout qu'en plus le contexte
complètement, malgré l'adversité, c'est-à-dire un stade vide de 80 000 places.
80 000 personnes, c'est il y en a 1000. L'adversaire, on apprend qu'il y a 9 blessés et 8 cas positifs de Covid-19.
Ouais, je crois que vous avez 13 cas d'effectifs.
Il faut vraiment qu'il y ait Shevchenko sur le banc pour qu'on y aille, quoi. Donc,
on y va.
Il y a une feuille de route des matchs amicaux. C'est que si ça peut être un peu plein de buts, un peu spectaculaire, avec des nouveaux qui s'expriment, ce sera réussi. Et là, on a tout. Et en plus, on a une belle histoire. C'est Giroud, 100e, dépasse Michel. Donc franchement, le cahier des charges, il est rempli à 100%, quoi. C'est vraiment merveilleux.
Étienne Moati, vous aussi, vous vous êtes amusé devant ce match ?
Oui, plutôt. Il y avait une animation offensive qui était intéressante et qui n'est pas toujours là en équipe de France. Donc évidemment, on rencontrait l'équipe C de l'Ukraine. Donc ce n'était pas non plus une preuve.
Les pauvres, on n'en parlera pas d'ailleurs.
Puis en plus, on ne les connaît pas les joueurs, donc on aura du mal à en parler. Mais voilà, il y a eu une animation offensive qui était vraiment intéressante. Il n'y avait pas beaucoup d'adversaires en face pour pouvoir résister. Il y avait de l'envie, il y avait du jeu, il y avait du plaisir. Donc c'est déjà pas mal. C'est pas toujours ça en équipe de France. Normalement, l'équipe de France, elle gagne toujours ses matchs. Elle ne séduit pas en permanence. Là, il y avait de la séduction, il y avait des sourires. Et puis, il y a des joueurs qui sont quand même impliqués, même dans un match comme ça. C'est aussi la patte Deschamps, c'est-à-dire qu'ils veulent quand même tout gagner et puis essayer de bien jouer.
Deschamps, c'est amusant. Hier soir, c'était son 103e match en tant que sélectionneur. Et il a galé son nombre de sélections quand il portait le maillot des Bleus.
J'avoue qu'il y en aura une 104e dimanche.
Et une 105e, je crois aussi.
Mais comme joueur, je crois que c'est fini.
Oui.
En revanche, c'est qu'il y a vraiment un souci au milieu.
Là, il fallait dépasser.
Parce que, par exemple, il y a Eduardo Camavinga. On va peut-être en parler.
On va en parler, je crois. C'est prévu. Patrick Juillard, juste, on va pas aux entraînements. Surtout en ce moment, à Clairefontaine et tout est limité partout. Donc, pas droit à l'entraînement. Là, on a vu 90 minutes d'entraînement, mais c'était aussi un match abouti, quand même, de la part de ces jeunes.
Vous disiez au début, bon, les matchs amicaux, souvent, on grimace un petit peu avant parce qu'on se dit que ça va ronronner.
On a eu d'autres qui nous ont pas réconciliés.
Didier Deschamps, j'ai apprécié que sur ce match, il fasse beaucoup de tests, il fasse beaucoup d'essais, il change beaucoup son équipe parce qu'un match amical, ça sert à ça. Mmh. On avait tendance parfois à l'oublier parce que Deschamps avait tendance à être un peu conservateur, à reconduire souvent la même ossature. Là, il a beaucoup changé, mais justement, cette audace a payé parce que les joueurs qui ont été alignés, ils ont voulu montrer, alors certes, vous l'avez dit, contre un adversaire très amoindri, mais ils ont voulu montrer qu'ils pouvaient être à la hauteur et dans l'ensemble, c'était une prise de risque payante. Alors on va parler de Camavinga, donc j'en parle pas tout de suite.
Non,
on peut par contre être un peu...
On va te dire de quoi tu peux parler.
Non, mais justement, il y a un contre-exemple dans ce que je disais, c'est qu'un joueur qui a débuté titulaire pour la première fois, Oussama Aouar, lui m'a un peu laissé sur ma faim. Je m'attendais à ce qu'il prenne plus d'initiative dans la conduite du jeu, parce qu'en plus il avait les coups des franches, il n'était pas vraiment... beaucoup marqué,
c'était
beaucoup
sa
pressé.
Première. On sait qu'il n'avait pas pu venir à cause du virus la dernière fois.
Je pense qu'il devait être un peu sous pression à cause de ça, à cause aussi du mercato qui a traîné, à cause aussi du fait qu'il était... Il y a eu une campagne des médias algériens pour faire monter un faux suspense sur son éventuelle venue chez les Fenech. Donc ça s'est senti. Donc ça, c'est le petit bémol que je mettrais. Mais dans l'ensemble... Il est rare que je sois tendre avec Didier Deschamps et là, j'avoue que il a bien géré ce match et que tout s'est passé selon le plan prévu, avec même le, y compris dans le storytelling, on avait dit Giroud, Camavinga,
tout s'est passé
à merveille,
comme prévu. Voilà. Quelqu'un qui était au Stade de France hier soir est avec nous et c'est Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Oui, j'ai vu.
Vous avez vu Dominique aussi.
Hier aussi. Bien sûr, on se voit tout le temps.
Et ben oui, quand on parle des Bleus.
Dans des vies masquées, évidemment.
On va entrer dans une intimité compromettante.
Vous vous êtes amusé, vous aussi?
Ah ben forcément, forcément, on ne pouvait que s'amuser. La fête, elle a commencé d'ailleurs avant même le premier but des Bleus, parce que Benjamin Pavard a une occasion dès la 6e minute et ça n'arrête tout simplement pas. Alors après, on n'en attendait pas moins de l'équipe de France face à l'équivalent d'une équipe de cadets. Les Bleus ont fait mieux que maîtriser. Et pendant le match, je regardais au fur et à mesure à la mi-temps, je regardais la dernière fois que les Bleus avaient marqué 4 buts. Bon, ça remontait pas à si longtemps puisqu'ils avaient battu la Croatie sur ce score-là il y a très peu de temps. Et puis après, j'ai regardé au moment où Tolisso marque le but du 5-1, quand les Bleus avaient marqué 5 buts, ça remontait à juin 2017 contre le Paraguay. Et après, au coup de sifflet final, j'ai regardé, et la dernière fois que les Bleus ont mis au moins 7 buts, il fallait remonter à 2014 et à un amical contre la Jamaïque. Bref, des matchs comme ça, on n'en voit pas tous les jours et on en a bien profité.
Ouais, donc c'était un score final 7-1. Alors des Bleus emmenés par un capitaine trentenaire et centenaire à la fois, il a de la chance. Olivier Giroud qui fêtait donc dignement sa 100e sélection par un doublé. Antoine, hier soir, c'était le grand soir du numéro 9 de l'équipe de France. Son sélectionneur, en fait, avait tout prévu pour que sa fête à lui soit parfaite.
Ouais, c'était une sorte de jubilé avant l'heure, en fait. Vous savez, en général, les jubilés, c'est quand on arrête sa carrière, on rassemble les amis et puis on fait sa fête
à 34 ans,
pour soi ensemble. Hier soir, en fait, Didier Deschamps avait fait en sorte que toutes les planètes soient alignées pour Olivier Giroud, c'est-à-dire que il avait pas mis Hugo Lloris dans les buts, il avait mis Steve Mandanda, il n'avait pas mis le vice-capitaine Raphaël Varane en défense centrale, Blaise Matuidi qui était également susceptible de porter le brassard étant parti aux États-Unis, il n'était même pas convoqué. Bref, Didier Deschamps avait Et c'est très rare qu'il le fasse à ce point-là pour un joueur. Il avait déroulé le tapis rouge à Olivier Giroud. Le dernier joueur, le seul joueur d'ailleurs à avoir passé 100 sélections sous le mandat de Didier Deschamps, c'était Hugo Lloris. C'était à Ekaterinbourg pendant la Coupe du Monde contre le Pérou. Et on n'avait pas eu, il n'avait pas eu droit à autant d'égards. La fête, elle a peut-être été en privé, mais pas devant les caméras à ce point-là. L'hommage n'était pas aussi appuyé.
Il n'avait pas encaissé de but, c'était une belle manière de fêter les...
Oui, mais Deschamps y était pour rien.
Le cas. Oui, oui.
c'était l'apogée d'une relation, mais apogée veut dire que ça va redescendre, Dominique.
Non, parce que tous ces témoignages d'affection, ils sont là parce que Giroud, il est à la fois un attaquant sur lequel il y aura toujours un doute. Sur ses qualités, voilà. Si vous construisez une équipe, vous mettez pas Giroud en premier dans un club.
Bah Deschamps, il le met en premier. Non, il a fait 91 sélections.
C'est pas un des plus grands attaquants au monde. Mm-hmm. On va pas refaire le débat, mais c'est pas Benzema, c'est pas Mbappé, c'est pas.
Oui.
Trezeguet.
Oui. Voilà. Oui. Voilà. C'est pour Dominique.
Donc il y a toujours cette suspicion là. Et puis son club, ça fait quand même plusieurs années que ça soit Arsenal sur la fin ou Chelsea depuis le début, où c'est pas exactement le garçon qui a du temps de jeu. Donc son vrai club, en fait, ça devient l'équipe de France. C'est celui où on le voit le plus. Et ça marche, puisqu'il n'arrête pas de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, désormais. On peut associer dans la même phrase, il est arrivé en 2011, je pensais jamais, il y a 9 ans, que je pourrais associer dans la même phrase Olivier Giroud, Michel Platini et Thierry Henry. Je pensais qu'on... Eh ben maintenant, on est obligé d'en parler.
On peut.
On peut.
Donc non, on va y revenir d'ailleurs.
Tout le mérite lui revient.
Est-ce que ça veut dire qu'il compte sur lui aussi pour l'Euro qui doit avoir lieu théoriquement l'année prochaine, Étienne Moati?
Il n'y a aucun doute là-dessus. Olivier Giroud, il a été sélectionné en équipe de France quand il jouait plus du tout en club. Aujourd'hui, on voit la forme qu'il a. Finalement, il a fait une bonne préparation. Il est en forme. Et puis, surtout, ce qui concerne Olivier Giroud, c'est qu'il y a pas tant d'adversité que ça à son poste en équipe de France. À partir du moment où Karim Benzema n'est pas sélectionné ou pas sélectionnable, on n'a jamais su très bien qui reste derrière. Et qui pousse pour prendre la place d'Olivier Giroud? Quasiment personne. Mm-hmm. Quasiment personne. Donc finalement, le doute est pas permis dans l'esprit de Didier Deschamps, parce que de toute façon, il adore le joueur, mais le doute n'est pas permis non plus beaucoup dans l'esprit des 60 millions de sélectionneurs, parce que finalement, c'est pas Alexandre Lacazette, c'est même pas aujourd'hui Ben Yedder, ce n'est pas non plus Anthony Martial. Enfin, en tout cas, ils ont toujours aujourd'hui un cran en dessous.
Disons qu'il n'y a pas de concurrence. Il pourrait y en avoir si Didier Deschamps décidait de tester sur la durée un autre joueur pour essayer de faire évoluer schéma et la manière de jouer. Bah Ben Yedder pourrait être testé sur la durée 3-4 matchs.
C'est pas le même physique, c'est pas...
Non, mais ça pourrait apporter autre chose. Après, moi, Giroud, ce que je trouve remarquable, c'est justement sa capacité d'adaptation.
La constance.
Le fait que depuis presque 10 ans, il soit pratiquement un titulaire incontournable, alors que mine de rien, ceux qui l'entourent ont beaucoup évolué entre-temps, et il a su à chaque fois se mettre à leur service.
Ils ont évolué et changé surtout autour de lui.
Et on le voit un peu dans les deux buts qu'il a marqué hier soir. Il y a un but d'instinct, une frappe enroulée, alors un petit peu aidé par un gardien peu dynamique, peut-être qu'un meilleur gardien aurait pu avoir le ballon. Bon, là, ça s'est bien goupillé. Et ensuite, un but opportuniste où il jaillit comme un renard des surfaces à l'affût d'un ballon qui traîne. Le gardien repousse et il met une tête plongeante. Bon, c'est quand même un bon attaquant. On peut toujours avoir un débat. Est-ce qu'il y en a pas des meilleurs que lui ?
C'est quand même un bon attaquant. C'est une phrase qu'il va aimer, Olivier Giroud. C'est quand même un bon attaquant.
Non, mais je rebondissais sur ce que disait Dominique.
Deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, quand même.
Certes.
Et ben justement, après, on va y venir à ce poste qu'il a entre deux monuments de l'équipe de France. Écoutons-le, Giroud, very happy a priori.
C'était particulier pour moi, chargé d'émotions. Je suis très content forcément d'avoir dépassé aussi Monsieur Michel Platini ce soir. Mais c'est sûr que si je reste sur un bon rythme comme ça, je crois que je suis à 10 buts sur les 13 dernières sélections. Donc là maintenant, je suis toujours allé étape par étape et je ne veux pas non plus être un peu trop ambitieuse, comme on dit là, entre manches. Et donc Thierry Henry est encore un peu loin, on verra.
And it's Thierry Henry.
Thierry Henry. Est-ce qu'on nide Olivier Giroud? Justement, Thierry Henry, 51 buts sous le maillot des Bleus. Giroud est maintenant à 42. Michel Platini est donc maintenant derrière à 41. Est-ce que Olivier Giroud, sur ce podium, vous y faisiez allusion tout à l'heure, Dominique Sévrac, est-ce qu'on peut dire que il est dans la même catégorie? Est-ce qu'on peut vraiment comparer, même si, en chiffre absolu, il est là?
Il a surperformé dans sa carrière, Olivier Giroud, pour en arriver
là.
Il dit
qu'il a marqué 10 buts dans ses 10 dernières sélections.
Ouais, dans ses 13 dernières, je crois. Mais non, c'est étonnant qu'il soit là. C'est étonnant. Alors, mais comme c'est étonnant que Thierry Henry n'ait marqué qu'un seul de ses 51 buts sur une passe de Zinedine Zidane, parce qu'il n'a pas joué avec des pimpins, Thierry Henry. Il a joué quand même avec quelques joueurs qui étaient de très très haut niveau. Je ne dis pas que Giroud est dans un désert. Hein. Il y a des passeurs aussi aujourd'hui. Mais non, c'est vraiment étonnant. Alors, j'ai pas d'analyse. Est-ce que c'est dû à la multiplication des matchs internationaux qui fait que
ça sans doute, parce que le ratio de buts,
est-ce que c'est dû au fait que la France a fait finale de l'Euro 2016, finale de la Coupe du Monde, donc forcément elle va loin dans les compétitions. Bon, quart de finale de la Coupe du Monde 2014, elle va assez loin, relativement loin dans les compétitions, donc ça lui laisse évidemment le loisir de marquer des buts. Voilà. Mais bon, Thierry Henry, il a fait deux finales de Coupe du Monde aussi, deux finales. Il aurait pu participer à deux finales. Il a joué qu'une, celle de 2006, mais il était sur la pelouse du Stade de France en 98, en tout cas sur le banc. Non, je sais pas, je saurais pas l'expliquer.
Patrick, parce que vous, puisque vous relativisiez,
Non, je relativise tout simplement parce que, alors Dominique l'a dit, on a assisté à une multiplication incessante du nombre de matchs internationaux depuis une vingtaine d'années.
Maintenant qu'on a inventé la Ligue des Nations,
voilà,
et tout ça.
Et puis il y a aussi en Europe l'éclatement du bloc de l'Est, enfin de beaucoup de pays, qui fait qu'on a beaucoup plus d'adversaires potentiels qu'à l'époque de Michel Platini, voire de Thierry Henry.
Et voir des adversaires faibles.
Mais
donc,
ce qui est assez remarquable de la part d'Olivier Giroud, c'est que historiquement, le football français brille par ses numéros 10. Et Michel Platini a marqué un nombre incroyable de buts, mais il n'était pas attaquant, il était numéro 10, meneur de jeu. Et les attaquants à l'époque, les Stopira, Rocheteau ou Lacombe, ils jouaient plutôt pour Michel Platini, ils se mettaient à son service. Olivier Giroud, il arrive à la fois à se mettre au service des autres dans le jeu en usant la défense, en servant de point d'appui, mais il arrive à tirer son épingle du jeu. Donc ça, il faut le souligner, il faut le relever, ses qualités. Après, le bémol qu'on peut apporter par rapport aux autres, c'est qu'Olivier Giroud a marqué relativement peu dans les matchs cruciaux des grands tournois. Voilà.
Non, et puis en plus, justement pour rebondir sur ce que dit Patrick, Étienne, c'est aussi le fait qu'il n'ait pas marqué durant la Coupe du Monde.
Oui, c'est une mauvaise habitude, mais si à chaque fois on gagne la Coupe du Monde et que l'avancante de l'équipe de France ne marque pas, c'est pas très
c'est
gênant.
Pas grave. Bon,
mais
d'accord,
c'est,
ça s'est produit.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste quand même à marquer. Je pense que le grand public a cette idée-là, cette image-là aussi d'Olivier Giroud, comme il l'a eu de Guy Varche, deux avancantes de l'équipe de France championne du monde qui ne marquent pas un but lors du tournoi final. Donc ça peut paraître quand même un peu curieux. Je pense, j'ai pas fait de statistiques. Dominique non plus, il en fait jamais, mais je suis pas sûr qu'il y ait une sélection mondiale qui était championne du monde avec un avancante qui met zéro but dans la compétition, donc c'est une particularité.
Et donc c'est difficile de le comparer.
C'est impossible de comparer à Michel Platini. Là, il faut quand même rester un tout petit
et
peu
puis
sérieux.
Et les époques, en plus.
C'est pas tant les époques que là, pour le coup, le talent pur. On a d'abord un joueur qui a trois ballons d'or, donc c'est pas parce qu'il a dépassé Michel Platini au nombre de buts qu'il devient un meilleur joueur que Michel Platini. Et puis même pour Thierry Henry, si jamais les circonstances font et le talent d'Olivier Giroud qui passe devant Thierry Henry, je pense pas qu'il deviendra un meilleur joueur dans l'histoire de l'équipe de France que Thierry Henry.
C'est là où il faut relativiser aussi les statistiques. C'est-à-dire que même Jean-Pierre Papin, qui est Ballon d'Or, est quand même au-dessus. C'est des faux objectifs. Je crois pas avoir un sentiment personnel en disant que Karim Benzema, Jean-Pierre Papin, Kylian Mbappé sont des attaquants supérieurs
même
à Olivier Giroud.
Même
David Trezeguet. Même pas peut-être, c'est sûr. David Trezeguet a une finesse technique que
dans la finition.
Je me souviens de son but en scarabée avec Arsenal. Un très beau but. Il avait eu le prix Panenka d'ailleurs.
Pouchkas.
Pouchkas. Alors celui qui était titulaire pour la première fois hier soir, notre petit nouveau Mbappé. Alors si je dis Mbappé, c'est pas du tout, je comprends pas les postes, mais c'est parce que Mbappé est arrivé très jeune aussi en équipe de France, fallait pas lui dire. Eduardo Camavinga n'a pas l'air d'être aussi arc-bouté sur son âge et ne pas vouloir en parler. En tout cas, il ne cesse d'impressionner avec hier soir un but magnifique.
Lui, il n'en a que 17. Et comme lors de ses premières minutes, il y a un mois contre la Croatie, il a l'air toujours aussi à l'aise, Eduardo Camavinga. Clément Lenglet.
Oh. Ennuyé par le ballon.
Martial. Ouais, changement de rythme, mais retour sur lui. Ouais, c'est bien fait de la part du latéral d'Everton.
Oui. Avec la tête d'Olivier Giroud. Et Camavinga! Camavinga, l'inspiration! À la 9e minute, première titularisation, premier but d'un gamin de 17 ans qui peut-être s'installera longtemps en bleu en attendant ses débuts. Son fracassant, Eduardo Camavinga, les Bleus mènent 1-0.
S'installera-t-il longtemps dans cette équipe de France? Eh bien, on va écouter le sélectionneur parce qu'apparemment, il est prêt à le reprendre.
Il est capable de faire des choses que les autres font peut-être moins bien.
Bravo à lui, c'est un jeune joueur qui a énormément de qualité, de facilité. Il a eu le bonheur pour sa première sélection en tant que titulaire de marquer ce but-là. Il n'a pas encore 18 ans, je l'ai pris le mois dernier et je le reprends aujourd'hui si je le fais jouer parce que j'estime qu'il est capable. Après, à lui de démontrer sur le terrain, pas en demander trop aussi, mais il est là. Alors, je vous avoue, il le sait, hein, et vous le savez aussi, milieu de terrain, il y a énormément de concurrence, mais c'est pas les autres et lui, c'est lui avec les autres.
Il n'a donc que 17 ans et quelques mois, il est là pour durer, n'est-ce pas, Antoine Grenier, ce petit, ce tout petit de 17 ans?
C'est l'anti-Giroud, en fait, Eduardo Camavinga, si on doit le classer. Déjà, son arrivée, c'est extrêmement perturbant. J'ai cru à une hallucination.
C'est le gimmick de David Finzel, un cadeau pour vous, direct.
On peut peut-être prendre la main en studio, tu n'as pas l'air bien, là.
Hein, c'est pas très sérieux d'aller en reportage avec son fils, quand même, Antoine.
C'est les inconvénients du télétravail. Non, Eduardo Camavinga, on le disait déjà quand il est rentré en jeu contre la Croatie, il a réussi quasiment, hein, on va pas pousser, à ringardiser Kylian Mbappé en un rien de temps. C'est-à-dire que il est devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France. Il devient hier soir le plus jeune buteur de l'après-guerre, le deuxième plus jeune buteur de l'histoire des Bleus dans l'histoire. Bref, et on en parle de temps à autre avec David Finzel qui prépare l'émission. Et je lui disais, Camavinga, quand on le voit jouer, chaque geste qu'il fait, quand on l'analyse, on se dit c'était ce qu'il fallait faire. Bon, alors hier, il me fait un peu mentir parce qu'il a une affreuse perte de balle au milieu de terrain. Mais dans l'efficacité, dans le vécu, dans l'expérience, il a beaucoup plus que 17 ans, et son but hier, qui est un retourné acrobatique sur un ballon qui traîne, enfin, c'est affolant de spontanéité, et c'est beau à voir, c'est tout simplement beau à voir. Il fait partie de ces joueurs comme Kylian Mbappé qui donnent envie d'aller au stade pour venir les regarder jouer.
Dominique, êtes...
Il aura 18 ans le 10 novembre, donc on en a pris quand même pour, a priori, bien 10-12 ans.
Mais vous n'aviez pas l'air d'accord quand Antoine disait qu'il ringardise Kylian Mbappé?
Non, bah parce que...
J'ai dit quasiment.
Attends, je connais la passion de Dominique, c'est vrai, pour Kylian Mbappé, il supporte pas moindre réflexion.
Après, c'est pas le même poste et c'est pas le même club, Rennes est milieu de terrain, c'est pas comme attaquant du PSG, et voilà, donc il y a toujours une exposition médiatique et une attente qui sera différente. Et puis Kylian Mbappé continue de me surprendre, et d'ailleurs il a marqué un but avec un
magnifique
enchaînement sublime hier. Mais c'est vrai que
parle de Camavinga, ouais,
c'est vrai qu'il arrive après tous les autres. Ça fait partie de cette génération, c'est ça qui me sidère depuis plusieurs années, donc c'est pas un phénomène nouveau. Et on a eu ça avec Ousmane Dembélé aussi, voilà, parce que aussi on s'est enflammé,
ça sera pas comme avec
on s'est enflammé aussi parfois pour des joueurs, Anthony Martial, ça fait partie de ces jeunes qui arrivent et qui sont complètement décomplexés.
Mais on a l'impression qu'il
parlait tout à l'heure d'avoir, en général, avant, il y a pas très longtemps, on disait, il faut une dizaine de sélections avant de voir le potentiel en équipe de France. Ça, c'est fini, ça. Maintenant, au bout d'une ou deux, on sait, quoi. Avec ces joueurs-là, avec Dembélé, Mbappé, et Camavinga, Martial. Non, on s'est trompé parfois, hein. Martial, il a disparu. Là, il revient, mais il a disparu. Il a eu des trous. Dembélé, bon, lui, c'est peut-être plus ses blessures que son talent. Oui. Mais non, il est jamais là. J'espère que si Camavinga, qui pourrait signer ou au Real Madrid ou au PSG prochainement, voilà, j'espère qu'on va le revoir très longtemps.
Un petit mot,
Moi, je trouve qu'il Patrick. Profite aussi, alors c'est son talent, mais il profite aussi de l'éclipse relative de Griezmann, qui était un petit peu le dépositaire du jeu de cette équipe de France et qui est plus en difficulté ces derniers mois en club et aussi en équipe de France. Et Kamavinga a un peu récupéré l'espace du meneur de jeu qui dit pas son nom, parce que Deschamps n'aime pas dire qu'il joue avec un meneur de jeu, même s'il y en a un de fait. Et donc, c'est tout à son honneur d'avoir su le faire.
Étienne,
dans le sonore, donc magistralement monté par David Finzel, il y a un élément qui est, là, je plaisante pas, qui est extrêmement important, c'est la phrase de Deschamps sur Kamavinga, qu'il a déjà dit la première sélection de Kamavinga. Il dit, c'est un joueur au milieu de terrain qui sait faire des choses que les autres ne savent pas faire. C'est très rare que Deschamps dise ça d'un joueur. Et il dit ça à plusieurs reprises de Kamavinga. Et c'est évidemment totalement vrai. C'est-à-dire que c'est le joueur dont on se dit qui peut être titulaire à l'Euro, c'est-à-dire qu'il apporte quelque chose de différent à cette équipe de France. Il a un profil complètement différent, il a un jeu complètement différent, il a un talent différent. Alors pour l'instant, il a que 17 ans et donc on n'est pas sûr qu'il sera titulaire à l'Euro, mais en tout cas, s'il l'est, ça voudra dire que l'équipe de France sera encore plus forte.
Ouais,
il
y a extrêmement intéressant.
Faut pas qu'on chasse chaque fois, parce que par exemple, Pogba, certes, c'est peut-être que la Coupe du Monde 2018 comme référence, mais Pogba, pour moi, il a encore plus.
Oui, on peut jouer, jouer à 3 en équipe de France avec Kanté, Pogba et Kamavinga. On peut en rêver.
Il faut pas ringardiser ou oublier que
On n'avait même pas dit son nom. Tu vois, comme
On découvre, il a marqué un but spectaculaire hier, génial. Mais Griezmann aussi a marqué, Mbappé a marqué aussi, donc, et la France a gagné, donc tout va bien. Merci beaucoup, Antoine Grognet, on vous laisse avec
vos enfants.
vos enfants.
Merci, ça a été un plaisir.
Merci beaucoup, Antoine. À plus tard.
El señor Josep Bartomeu, presidente del Barcelona, está pensando en bajarse del barco.
Contra Josep María Bartomeu después de que este miércoles hayan validado...
...contra de Bartomeu y la Junta Directiva para convocar a una selección.
Es decir, Bartomeu ya sabe que se va y están pensando cómo salir, cómo dejar las cuentas lo mejor posible...
Le président du FC Barcelone dans les cordes, et oui, c'est pas commun au football d'être dans les cordes, mais il est acculé par une majorité de socios du club catalan. Enfin, une majorité de ceux qui ont pu s'exprimer. La colère, en fait, gronde depuis plusieurs mois contre Josep Bartomeu, et elle s'est transformée ces derniers jours en une motion de censure. Il fallait 16 521 votes, c'est-à-dire 10% du nombre des socios, et le recomptage validé depuis, eh bien, a compté plus de 20 000 bulletins qui seraient donc favorables à cette motion de censure contre la direction et contre le président. On sait que Messi, il n'a pas voté, mais lui aussi, il aurait bien voté sûrement des deux mains et des deux pieds, certainement. François David est en ligne avec nous depuis justement la Catalogne, depuis Barcelone. Bonjour François.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
François, expliquez-nous, c'est un moment historique au Barça que cette motion lancée alors au lendemain de l'annonce du désir de départ de Messi, qui finalement n'est pas parti, et on avait l'impression que ça ne passerait pas, et finalement ça aboutit, cette motion de censure.
Ben, c'est la troisième fois en fait où il y a un référendum qui va être organisé. La première fois c'est en 97 avec Joan Laporta, qui était à l'époque donc l'ancien président du Barça. Un jeune entrepreneur qui avait voulu s'attaquer au mythique Núñez, le président historique du Barça. Vous savez, je crois que c'était en 97. Après, en 2008, cette fois, c'était Laporta président. Il y avait une motion de censure qui avait échoué. Là où ça peut être historique, Annie, c'est que là, ça peut vraiment aboutir. C'est-à-dire qu'il faut avoir, après validation de, vous l'avez dit, c'est 16 521 signatures, il faut que les sociaux votent, tous les sociaux. Et s'il y a 66,6%, donc exactement deux tiers des socios, et ben ça passe. Et ben là, on avait vraiment la sensation que ça allait passer. Sauf que c'est Dallas, c'est Barcelone depuis quelques semaines. Et bien là, l'actuelle direction du FC Barcelone tente de paralyser ce vote-là, qui devait se passer, allez, on va dire, aux alentours du 25 octobre, donc peut-être une journée après le Classico, qui sera le 24 octobre. Eh bien, ils essaient de paralyser pour deux raisons. La première, c'est la crise sanitaire, en disant que les vieux sociaux, ils pourront pas se déplacer et que ça risque pour eux peut-être d'attraper le coronavirus. Et de deux, qu'il y aurait dans ces votes, dans ces papiers de sociaux, eh bien, des irrégularités. Donc, ils essaient de paralyser absolument. Je pense pas que ça va durer très longtemps, cette histoire. Je pense que très rapidement, il va y avoir effectivement ce vote-là, et que José Maria Bartomeu pourrait être le premier président de l'histoire du Barça à être destitué par votre populaire.
Mmh. Il ne va pas démissionner comme l'imagine celui qui est à l'origine de cette... c'est ce qu'a déclaré en tout cas l'initiateur de la motion de censure.
Jordi Faré, oui, c'est un des candidats
potentiels.
Oui, c'est Barcelone, potentiel. Mais ils sont plusieurs, hein, Jordi Faré. Il y a Joan Laporta qui va sûrement se représenter. Lui, il espérait que José Maria Bartomeu allait démissionner. Moi, j'y crois pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, le vice-président du club a fait une déclaration disant qu'il était plus fort que jamais, qu'ils étaient une équipe et qu'ils allaient se battre pour leurs droits. Mais bon, il sera considéré, je pense, Annie, hein, et ça, on pouvait le dire, je pense, comme le pire président de l'histoire du FC Barcelone.
Mais pourtant, il a réussi à conserver Lionel Messi, Josep Bartomeu. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, le 8-2 ou plein d'autres choses ?
Plein d'autres choses. Le 8-2, je pense que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Mais il y a plusieurs raisons. Je crois que de ces 5 dernières années, on va dire depuis 2016, je crois qu'il y a eu peut-être 10% des transferts qui sont arrivés, qui se sont révélés intéressants et constructifs. Sinon, c'était des dépenses inconsidérées pour Paulinho, 45 millions, Dembélé, 140 millions, ouais. Coutinho, 150 millions, des joueurs qui sont arrivés en veux-tu, en voilà. Pendant ce temps-là, la Masia, qui fournissait quand même beaucoup de joueurs, ne produisait presque plus. Là, ça va un petit peu mieux avec
la Masia.
Et surtout Ansu Fati. La Masia avec Ansu Fati. Mais il y a eu en plus des affaires, le Barça Gate, avec des écoutes téléphoniques à des joueurs, avec des faux comptes Twitter pour dévaloriser les joueurs. Il n'y a plus un sou en caisse. Vous l'avez dit, Messi, l'épisode Messi, c'est quand même le plus grand joueur peut-être de l'histoire du club. C'est le plus grand joueur de l'histoire du club. Complètement contre Josep Maria Bartomeu, il y a une baisse de l'attractivité du club. Et puis surtout, cette direction incarnait finalement l'opposition aux figures historiques, qui sont Johan Cruyff, Messi, on l'a dit, Xavi, qui est contre cette direction, et Pep Guardiola. Donc tout ça cumulé fait que les sociaux n'en peuvent plus et veulent effectivement le dégager.
Une question, messieurs. Je vais commencer par vous, Étienne Moati, grand passionné par ce FC Barcelone. Mais est-ce que c'est pas un triste spectacle, ce si grand club avec un si beau jeu et un beau palmarès et un bel effectif?
Un bel effectif, finalement, pas tant que ça, qu'il est assez déséquilibré.
Effectif,
on vient de faire
la
revue d'effectifs de tous les recrutements qui ont été faits et qui ont été plutôt des désastres.
Non, mais je pense à l'époque de la MSN, je pense évidemment à
Aragon. En tout cas, pour fréquenter pas mal la Catalogne, je ne connais pas de supporters de la direction actuelle. Donc évidemment, il y a parfois des majorités ou des petites minorités silencieuses. Elles existent peut-être, mais je crois en effet, comme ça a été dit, que cette motion de censure, elle a de grandes chances de passer parce qu'il y a véritablement un ras-le-bol et qui dure sur plusieurs saisons. Et évidemment aussi la défiance de Messi, ça a été dit, celle de Xavi qui est avec un candidat opposé à la direction actuelle. Donc à peu près tout est réuni. Quand on peut imaginer aujourd'hui qu'un club de la dimension économique du Barça n'a pas été en mesure de faire dans les dernières journées un contrat à Memphis Depay que voulait Ronald Koeman, qui pourtant coûte très peu cher, puisqu'il est dans sa dernière année de contrat à Lyon, c'était 5 ou 10 millions d'euros, donc c'est absolument abracadabrantesque.
Mmh. C'est Dallas, Patrick Juillard.
C'est Dallas, c'est un club qui avait déjà commencé à changer de modèle économique avant l'arrivée de Bartomeu, mais qui allait à fond dans ce qu'on pourrait appeler l'achat-vente,
le star
mais qu'il a très mal fait, qui a dépensé énormément.
Qui achète et qui vend pas.
qui a mal vendu et acheté trop cher pour des résultats sportifs insuffisants et au final une perte d'identité de jeu totale. Les équipes de Valverde et puis celle de Setién produisaient un football qui n'avait plus rien de commun avec le jeu
à la barcelonaise.
À la barcelonaise, qui est une vraie marque de fabrique et qu'on avait perdu complètement. Il fallait regarder d'autres équipes pour le retrouver, ce jeu, mais certainement plus le Barça.
Dominique.
Bartomeu, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Il a multiplié les décisions incompréhensible, inepte, nommer Eric Abidal responsable du recrutement, faut le trouver ça. Aucun club français, qui sont pourtant des spécialistes parfois de la compétence, n'y a pensé. Lui, il l'a fait. Je pense que le transfert de Neymar, plutôt le rachat de la clause, c'est pas un transfert, le rachat de la clause de Neymar leur a fait beaucoup de mal. À la fois, ils ont perdu un joueur sur lequel ils misaient, qui était un joueur d'avenir, et puis ils ont pas su quoi faire des 222 millions, puisqu'ils ont dilapidé sur Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, avec le succès succès que l'on sait.
Non, Coutinho, donc Coutinho, voilà, c'est peut-être mieux.
Je pense que oui, mais je pense quand même que voilà, c'est le début de la fin à ce moment-là, avec un club beaucoup trop politique historiquement, et là Bartomeu s'est perdu dans les courants du board, avec des gens qui ont dit voilà, on peut pas continuer avec lui. Donc il a même pas des alliés au sein de son conseil d'administration. C'est très compliqué.
François David, eh bien, on vous rappellera pour les autres épisodes de ce Dallas catalan.
Il y en aura plein. Alors,
on compte sur vous. Merci beaucoup, François David.
Muchas
gracias.
Bienvenue sur Téléfoot, la chaîne du foot.
Trêve de blabla, trêve de plaisanterie, des images, de l'émotion, de la passion. C'est Téléfoot, c'est ce qui vous attend dans les mois et les années.
Verra-t-on encore longtemps le championnat de France sur cette chaîne qui émet depuis moins d'un mois, hein, depuis le 16 septembre dernier exactement, alors que débutaient à la fois la Ligue 1 et la Ligue 2. Le hic, c'est que Mediapro, le groupe qui dirige cette chaîne Téléfoot, qui est propriétaire, n'a pas payé ses derniers droits de retransmission à la Ligue professionnelle. Il y a des échéances régulières. Hein,
tous les deux mois.
Vous me direz, si je me trompe, Étienne Moiti, mais je vous lis bien, donc théoriquement, j'arrive à comprendre. Un petit chèque donc de 172 millions d'euros, très attendu ensuite évidemment par les clubs de France auxquels ils sont distribués, d'autant plus qu'en ce moment, vous le savez tous, à cause du virus, il n'y a plus de billetterie. La LFP ce matin a répété qu'elle refusait de laisser du temps à Mediapro qui veut renégocier en plus son contrat. Est-ce qu'on peut se dire que Mediapro, ils sont malhonnêtes ?
On peut se dire déjà que tout le monde avait de gros doutes depuis la signature donc du contrat de la Ligue 1 attribué donc en grande partie à Mediapro.
La Ligue 1 vendue 1 milliard d'euros comme voilà, la Ligue 1 se targuait. Hein,
sur les 4 saisons qui viennent, voilà, c'est un groupe qui arrivait sur un marché qui est un marché extrêmement saturé avec déjà énormément de chaînes de sport qui retransmettent déjà des matchs. C'est compliqué de venir créer une chaîne de toutes pièces et se faire une place. C'est des droits qui ont été payés extrêmement cher, donc avec plus 60%. On s'est demandé donc quel était ce Père Noël qui pouvait venir et penser que la Ligue 1 avait cette valeur-là et qu'il était possible donc d'en faire un succès commercial assez rapidement. Bah, malheureusement, on n'avait pas tort, puisqu'on a vu qu'au bout d'un mois à peine, ils reviennent taper à la porte pour dire voilà, finalement, c'est beaucoup trop cher, on veut renégocier, mais on rigole un peu, mais c'est extrêmement inquiétant pour les clubs français, parce que vous l'avez dit, il y a déjà la crise du Covid, il y a un seul pilier aujourd'hui, c'est celui des droits télé, donc qui tient un peu les clubs en vie. Et si jamais ce pilier-là commence à se lézarder ou à s'effondrer, bah, il va y avoir quelques faillites en Ligue 1 et en Ligue 2.
Patrick, maladresse aussi peut-être d'arriver, on voit et on lit que la réaction des Français, qui sont les premiers à pouvoir s'abonner, critique le prix de l'abonnement.
C'est très cher, 25 euros par mois.
25 euros par mois, quand, par exemple, à titre de comparaison, beIN Sport à l'époque...
C'était 12 à 15 euros.
C'est à 11 euros.
Oui, voilà. Oui,
11, ça avait commencé effectivement à 11 et en plus sans engagement, on se souvient à l'époque. Patrick Juillard, parce que, alors on dit que c'est un groupe espagnol, en fait c'est un groupe chinois avec un partenariat espagnol qui ont un peu le savoir-faire, mais on se souvient quand ils avaient signé le contrat déjà, ils avaient eu une histoire,
ils avaient fait une offre donc à la...
De retransmission pour l'Italie.
La Serie A. Et cette offre avait finalement été retoquée pour absence de garantie financière suffisante. Et c'est ensuite qu'ils avaient misé sur la Ligue 1 et que la LFP les avait accueillis à bras ouverts, hein, en quelque sorte, puisque la manne était providentielle. On battait des records. Les droits français se retrouvaient supérieurs aux droits de pays pourtant au championnat plus coté que le championnat de France, donc comme l'Allemagne. Donc, en fait, je pense qu'il y a le prix qui est un gros obstacle. Jaume Roures parle du Covid, mais ça c'est à double tranchant. Effectivement, les gens ne peuvent plus beaucoup aller dans les cafés et les bars pour voir des matchs de foot, mais ça c'est vrai.
Ça bonnerait d'autant
mais
plus.
Mais justement, absolument. Donc,
c'est la seule manière de voir des matchs maintenant.
On peut plus aller au café, donc si on veut voir le match de son équipe, il faut s'abonner. On a une offre qui est trop linéaire en fait, c'est-à-dire que c'est une offre à l'ancienne avec comme était Canal+ il y a 10 ou 15 ans, et il n'y a pas assez d'offres personnalisées à la demande. Admettons, je suis supporter de Dijon. J'ai envie de voir deux matchs,
c'est triste.
Par exemple. J'ai envie de voir deux matchs. Je veux pas payer 25 euros par mois pendant un an. C'est trop cher. Mais je ne peux pas, avec le modèle de Mediapro, me payer les matchs que je veux me payer.
D'autant que tous les matchs de Dijon ne seront pas forcément sur cette chaîne-là. Ils pourraient aussi être sur Canal.
Avec Bein, on pouvait, si on voulait voir deux matchs précis pendant un mois, et les, admettons qu'on parte à l'étranger ou je ne sais quoi, on pouvait s'abonner pour un mois et on payait 12 euros. Il n'y a pas d'offre
fragmentée.
Quoi.
Réduite. Il n'empêche que le produit du football à huis clos, ou quasi huis clos, 5000 ou 1000, ça dépend de la jauge, c'est un produit dégradé, comme on dit.
Oui, et donc ça vaut moins que ça. Dominique,
les supporters ne vont pas au stade, donc ils vont regarder la télé.
Ça vaut moins cher quand même que ce qu'ils ont pu acheter. Donc c'est pour ça que je voulais poser la question à Étienne. Qu'est-ce qui relève de la vraie volonté de renégocier un produit qu'ils ont payé, pour lequel ils n'imaginaient pas que ça serait comme ça, avec des stades vides et tout ça? Bon. Est-ce que ça change pas aussi le football? Moi, des fois, j'ai l'impression de pas voir les mêmes matchs sans le public.
Ça, c'est certain.
Et qu'est-ce qui relève de tout ce qu'on savait de Mediapro, sur les doutes qu'on avait sur ses garanties bancaires, sur sa capacité, sa surface financière? Qu'est-ce qui relève un petit peu de l'immédiat? Et qu'est-ce qui relève un petit peu de la structure, des problèmes structurels qu'on avait soulevés déjà, ou que tu avais soulevés, depuis le début de l'arrivée de Mediapro dans le champ audiovisuel français?
Moi, je pense qu'ils se servent de la crise sanitaire, donc avec beaucoup de cynisme. C'est-à-dire que j'imagine que le calcul qui est fait par Mediapro, c'est qu'à partir du moment où vous prenez les droits en promettant donc un chèque extrêmement élevé, bah forcément vous remportez l'appel d'offres, et puis ensuite vous démarrez la compétition, et puis à ce moment-là vous venez taper à la porte, comme j'ai dit, vous dites bah finalement c'est beaucoup trop cher. Mais à ce moment-là, donc la Ligue, elle est piégée, elle ne peut plus.
Est-ce qu'elle peut redistribuer ses droits ailleurs?
Elle peut éventuellement, s'il y a vraiment un vrai défaut de paiement de Mediapro. Il n'y aura pas un autre appel d'offres, et elle peut tenter de redistribuer ses droits, mais aujourd'hui donc elle perçoit 1,2 milliard d'euros par an. Donc si jamais Mediapro se désengage ou elle lui retire donc ses droits et qu'elle essaie de les remettre sur le marché, mais je veux dire, les droits ils vont être divisés au moins par deux, et ça c'est évident, parce que vous imaginez
donc
bien que Canal
Plus, avec les mêmes.
Vous imaginez bien que Canal Plus ou beIN Sport, donc ils voient Mediapro s'effondrer et la Ligue lui retirer son contrat, bah ils vont pas mettre les mêmes sommes que mettait Mediapro. Ça vient donc que la Ligue est piégée. Donc c'est une vraie difficulté aujourd'hui pour la Ligue. Et c'est peut-être un calcul qu'a fait Mediapro de se dire, de toute façon, ils seront obligés de revenir avec nous, renégocier à la baisse.
La Ligue a changé de dirigeant il n'y a pas longtemps. Est-ce que donc les anciens, Nathalie Baudelatour et Didier Quillot, avaient pris des garanties bancaires avec Mediapro?
Eh ben non, pas du tout. Il y a pas de garantie bancaire donc dans les contrats qui ont été signés, donc à une hauteur de 3,5 milliards d'euros sur la durée des 4 ans du contrat. Il y a une garantie de l'actionnaire, mais ça veut dire que si jamais vous n'êtes pas payé, vous pouvez vous tourner vers l'actionnaire qui est un actionnaire chinois. Je vous laisse imaginer la complexité pour aller retrouver vos billes en Chine si on veut pas vous payer. Donc là aussi, il y a une vraie difficulté.
On rappelle que pour ce succès, Didier Quillot est parti avec 1,5 million d'euros.
Un parachute doré.
Voilà.
Mm-hmm. Ils ont laissé un beau cadavre dans le placard.
Incroyable. J'aurais une dernière question, Étienne, parce que malheureusement le temps nous rattrape. Mais est-ce que c'est la partie visible de l'iceberg, tout cela? C'est-à-dire que vous parlez aussi dans l'équipe aujourd'hui des difficultés peut-être à organiser le prochain Euro, qui déjà, pour avoir été reporté, coûte 100 millions à l'UEFA. Et on voit les clubs très peu dépensiers au moment du mercato. Est-ce que pour vous, c'est une part émergée de l'iceberg en ce moment, cette histoire média pro en France?
On a déjà connu des acheteurs de droits qui finalement faisaient faillite. Alors c'est pas encore le cas de Mediapro, faut être prudent, mais enfin c'est vrai, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, que en Italie finalement on leur a pas donné le droit de la Serie A parce qu'ils ont pas donné toutes les garanties. Voilà, c'est une bulle spéculative, le football, on le sait bien, donc on pense toujours qu'on peut aller de plus en plus loin, acheter des droits de plus en plus chers, qu'on aura forcément donc un nombre d'abonnés qui vous fera gagner de l'argent. On se rend compte que c'est pas toujours le cas.
On suivra ce feuilleton aussi pour savoir comment on va regarder.
Il y a des vraies garanties bancaires, lui, j'ai vérifié.
Et où on va regarder la Ligue 1. Merci et à demain.